enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Tu proclames prison au milieu des lieux.
Tu m'envoies un chant. Nous t'attendons
et nous t'aimons.
Seigneur a pris la place de roi dans mon cœur. Quand j'ai abandonné ma vie entre ses mains et j'ai dit, Seigneur, sois le roi de mon cœur, sois le roi de ma vie. Quand j'ai pris l'engagement de marcher avec lui, c'est indescriptible ce que j'ai ressenti ce jour. Sa lumière a envahi mon être et sa paix profonde est descendue en moi. La joie était visible sur mon visage. L'Éternel avait pris la place de roi, la place de roi dans ma vie. Et depuis lors, il m'a montré qu'il était le vrai roi, qu'il était celui qui ne déçoit pas. Tout ce qu'il m'a annoncé, j'ai vu les choses se faire. Par sa main puissante et son bras étendu, j'ai vu des personnes malades de cancer guéries par sa force. J'ai vu des aveugles voir, des paralytiques marcher. J'ai vu des gens qui n'avaient plus d'espoir en ce qui concerne la destinée de leurs finances être totalement restaurés par la force de Dieu. J'ai vu des couples bénis, des femmes stériles enfantées. J'ai vu des personnes qui vivaient sous la malédiction délivrées. Dieu est incroyable. Il est merveilleux. Il est digne de notre adoration. Il est notre Dieu. Il est celui qui prend le nom qui n'avait aucune référence et fait de ce nom un nom grand. Comme il a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Dieu a la capacité de prendre l'indigent dans la boue pour le faire asseoir à la table des rois. Il est celui qui rend fort le faible, qui guérit le malade, qui redresse celui qui est courbé. Il est le Dieu de celui qui donne un sens à la vie qui n'avait plus de sens. C'est notre Dieu, celui que nous adorons ce matin. Et c'est pour lui que ce message t'est adressé. Lève tes deux mains dans la présence du Seigneur. Et je vais prier ce matin afin que la parole qu'il a placée dans mon cœur ait du chemin dans ta vie. Merci Seigneur. Hallelujah. Tes deux mains dans la présence du Seigneur maintenant. Seigneur, je remets ton peuple entre ta main. Et je place une demande au devant de ton trône en ce jour. Qu'une onction particulière soit sur ma vie, afin qu'avec autorité, je puisse enseigner ta parole éternelle. Et que, Seigneur, tout ce qui était voile dans l'entendement de ton peuple soit ôté par ta force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce message apporte à la vie de mon frère et de ma soeur la bénédiction exceptionnelle que tu étends sur la vie de ceux qui te craignent. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, par ta force, nos familles, Seigneur, sont bénies par ta parole. Et l'alliance du mariage honorée, respectée, parce que toi seul es Dieu, tu règnes. Il n'y a personne qui soit semblable à toi, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Genèse 1. Alors, je ressens sur ma vie ce matin une onction particulière pour enseigner la parole de Dieu. Wow. Dis à celui qui est à côté de toi, quelque chose va se passer. Alléluia. Genèse 1, verset 27 à 28. Nous continuons notre message sur l'alliance du mariage. Genèse 1, verset 27 à 28. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et la femme. Il a béni l'homme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu a béni l'homme. Il a béni l'homme et la femme. Lors de notre dernier message, nous avons introduit sur l'alliance du mariage. Et nous avons dit qu'au commencement, dans la pensée de Dieu, quand il a créé l'être humain, il a créé l'être humain en deux parties. Une partie mâle, qui est appelée homme, et une partie femelle, qui est appelée femme. Donc, en fait, l'être humain est composé du mâle et de la femelle. Comme Dieu lui-même est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, quand le mâle et la femelle s'accouplent et un ont enfant, cet enfant est intégré directement, n'est-ce pas, dans l'association de l'homme et de la femme. D'accord? Et c'est pour ça que nos enfants que nous mettons au monde en tant que chrétiens sont sanctifiés par l'alliance que nous avons, nous, en tant que parents. Mais je voudrais aller plus loin ce matin en disant, vous savez, j'ai constaté que plusieurs personnes entrent dans le mariage sans avoir compris exactement ce que c'était. Et vous voyez, nous courons après certaines bénédictions de la part de Dieu, mais nous laissons ce qu'il y a d'essentiel. Je crois pour ma part que la première réelle bénédiction que nous obtenons de Dieu, c'est d'avoir une famille stable. Si ta famille est instable, quels que soient les trésors que tu as, en fait, tu n'en jouis même pas parce que la paix de l'Éternel ne peut pas être dans ton cœur. Ok? Et la joie de l'Éternel, tu ne peux pas l'avoir si tu as une famille instable. Et Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Donc Dieu bénit la famille. La famille devra être notre préoccupation. La famille devra être notre centre d'intérêt. Beaucoup de personnes négligent la valeur de la famille simplement parce qu'elles ne savent pas spirituellement quels en sont les enjeux. Mais suivez-moi bien, nous ne pouvons pas parler de mariage sans parler, n'est-ce pas, des prémices du mariage ou alors des fondements du mariage. Parce que mariage, ce que la fondation est pour la maison. Alors, comment donc entrer dans cette alliance de mariage? Comment, quel est le regard que chaque enfant de Dieu devrait avoir sur les fiançailles? Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes s'amusent à s'engager dans les fiançailles et à rompre les fiançailles demain, engagées à gauche et à Rome. C'est vrai que l'alliance des fiançailles peut être rompue, mais je voudrais ce matin vous montrer quel est le caractère sacré des fiançailles. Parce que les fiançailles, aux yeux de Dieu, ont un caractère sacré. Alors, ouvrez vos Bibles avec moi, n'est-ce pas, dans le livre de Deutéronome 22, versets 23 à 25. Je vais lire quelque chose. Deutéronome 22, versets 23 à 25. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu n'es pas encore là, dis attendez-moi. All right. Deutéronome 22, versets 23 à 25, je vais lire. La Bible dit, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Revenons dans le livre de Luc 1, versets 27 à 28. Luc 1, versets 27 à 28. La Bible dit, on peut commencer au verset 26, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et dans Luc 2, verset 5, la Bible dit, à partir du verset 4, « Joseph monta à Galilée, dans la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. » Alors, je parle du caractère sacré des fiançailles, suivez-moi bien. La Bible dit que Joseph était fiancé, n'est-ce pas, à une vierge appelée Marie. Et l'ange de l'Éternel, au sixième mois de fiançailles, n'est-ce pas, va dans la maison de cette vierge appelée Marie. Et l'ange lui dit, tu es bénie d'entre toutes les femmes, car le fruit de tes entrailles est béni. L'ange parle à Marie en lui disant, une grâce a été faite. Maintenant, suivez-moi bien. Selon, n'est-ce pas, la promesse qui avait été faite à David, Marie n'avait aucun droit légal d'avoir une bénédiction de cette dimension. La bénédiction n'était pas promise à Marie, parce que c'est Joseph qui était de la lignée de David. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel, au temps marqué où Jésus devait arriver sur terre, ce Joseph qui a une grâce de Dieu par héritage est fiancé à une femme vierge appelée Marie. L'ange s'en va rencontrer Marie et lui dit, Marie, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. Car une grâce a été faite. Tu enfanteras un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec toi. Mais suivez-moi bien, pourquoi est-ce que la grâce lui a été faite? Souvent nous pensons que la grâce est faite par hasard. Non, la grâce est souvent due au fait que nous ayons une connexion qui provoque cette grâce sur notre vie. On en parle dimanche prochain. Mais suivez-moi bien, une grâce a été faite, n'est-ce pas, Marie qui était fiancée à Joseph. Alors, ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est que une fois que vous êtes fiancé, vous êtes fiancé à quelqu'un, spirituellement, il y a une connexion qui s'établit entre la destinée de cette personne et la tienne. Et donc, les promesses même que cette personne pouvait recevoir peuvent shifter, c'est-à-dire ça peut directement transiter pour descendre sur ta vie, parce qu'aux yeux de Dieu, deux personnes qui sont fiancées ont posé les fondements, sont en train de poser les fondements pour bâtir la maison du mariage. Donc, aux yeux de Dieu, le mariage a déjà commencé. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais, suivez-moi bien. Et la Bible dit que dans l'Ancien Testament, une femme vierge, fiancée à un homme qui était violé dans la ville. Même pas qui avait des rapports, qui était violé dans la ville. Et qui n'avait pas crié pour appeler au secours. Était mise à mort au même titre que celui qui l'avait violé. Mais si le viol avait eu lieu dans les champs et que la femme venait dire, j'ai crié, mais il n'y avait personne tout autour pour me secourir, l'homme seul était mis à mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit, cet homme a déshonoré, pas la fiancée de quelqu'un, mais la femme de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Donc, aux yeux de Dieu, les fiançailles ont un caractère sacré. Ça veut dire, même avant d'aller aux fiançailles, avant de dire, je suis fiancé à quelqu'un, il faut prendre le temps déjà de connaître au moins la personne. Ok? Je suis étonné comment est-ce que les gens aussi rapidement dans notre génération s'engagent à se fiancer à quelqu'un. Vous savez, il faut faire très attention. Parce que quand vous êtes fiancé, vous êtes engagé devant le trône de Dieu. Et ne prenez pas l'habitude de rompre les engagements que vous prenez. Je vois des gens qui sont fiancés à trois filles au même moment. Ou alors il y a des femmes qui sont fiancées à deux hommes ou trois hommes au même moment. Non, on ne sait jamais où ça va marcher. Ce n'est pas le poker. Est-ce que vous me comprenez? Non. Ce n'est pas le poker, c'est une histoire sérieuse. On ne se fiance pas simplement comme ça, juste pour se fiancer. Non, il faut au préalable, déjà, avoir la certitude et la conviction que la personne avec laquelle on s'engage dans les fiançailles est la personne qu'on est prêt à épouser. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, si votre fondation est mal posée, si votre fondation n'est pas bonne, ce qui est sûr, c'est que la suite risque de ne pas être bonne non plus. Vous savez, il y a une manière d'approcher les fiançailles en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, le mariage a été institué par Dieu. Alors, si nous voulons le réussir, il faut le faire en la manière de Dieu. Alors, vous savez, la Bible dit que Marie a été enceinte avant qu'ils n'eussent habité ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient fiancés, mais ils n'habitaient pas ensemble. Est-ce que ça va? Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils sont fiancés à une fille, alors ils ont le droit de la mettre à la maison. Non, la Bible dit qu'ils étaient fiancés, mais ils n'habitaient pas ensemble. Est-ce que ça va? Et même, nous vivons dans une société où les gens prennent l'habitude de seulement habiter ensemble. Non, ça c'est du concubinage. Et la Bible est contre le fait que deux personnes pas mariés s'habitent ensemble dans la même maison. Non, c'est totalement interdit par Dieu. Et je vais plus loin, suivez-moi bien. Je vais plus loin. Certaines personnes disent, ok, nous sommes fiancés, j'ai payé la dot, donc la femme est déjà mienne. Mais si tu as payé la dot, qu'est-ce qui t'empêche d'aller légaliser cette dot aux yeux des autorités instituées par Dieu? Une femme que tu as dotée, bien qu'elle soit ta femme, tu n'as pas le droit légal devant Dieu de la mettre chez toi et d'avoir des rapports avec elle. Non, il faudra que, n'est-ce pas, écoute-moi bien, il faudra que les autorités de Dieu instituées dans la nation puissent aussi délivrer un acte de mariage. Et c'est à partir de ce moment que vous deux, vous êtes mariés. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais plus loin. Vous savez, j'arrive. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en mariage, mais qui n'ont pas confiance les uns les autres. Dès que le mari n'est pas rentré à 20h, la femme panique et le portable commence à crépiter toutes les secondes. Tu es où? Ou alors le mari appelle, tu es où? Est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi? Parce que généralement, vous allez vous rendre compte que quand il n'y a pas de confiance entre un couple marié, c'est parce que les fiançailles ont été mal négociées. Vous savez, vous pouvez être fiancé, vous cacher sous les arbres pour faire ce que vous voulez faire, personne ne vous voit. Mais laissez-moi vous dire que quand vous êtes dans la maison et que c'est devenu légal, le jour où votre partenaire n'est pas là, vous pensez qu'il est sous un arbre. Ok? Écoutez-moi bien. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que vous l'avez vu faire cette chose avant. Et je dis ceci, suis-moi bien. Si quelqu'un a pu tromper Dieu, laisse-moi te dire, cette personne pourra te tromper. Donc, le fondement est important, est très important. Je comprends que souvent dans l'excitation, les personnes sont très très pressées d'arriver à certaines choses sacrées. Mais cet empressement, si vous franchissez les barrières infranchissables selon la loi de Dieu, ça va vous suivre plus tard.
Même si dans votre tête, vous vous dites, non, c'est correct, nous sommes fiancés, ça va, mais plus tard, ça va vous suivre dans la maison. Et si tu es dans ce cas, je vais prier pour toi. Et je vais demander que cela, ce soit, que l'influence de cet acte soit annulée dans ton mariage, afin que la véritable confiance qui devait exister entre ton mari et toi soit véritablement établie. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous devons honorer les fiançailles. Les fiançailles, c'est quelque chose de sacré. Est-ce que ça va? De très sacré. Donc, suivez-moi bien. Si les fiançailles sont sacrées, nous devons apprendre à avoir une attitude de quelqu'un de correct à l'égard, n'est-ce pas, de cette chose sacrée. Parce que Dieu veut que les fiançailles soient sacrées. Parce que le mariage est sacré. La Bible dit que le mariage est honoré de tous. Donc nous devons honorer cette institution de Dieu. Et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux. Donc nous devons à tout prix faire ce que Dieu demande sur le point des fiançailles. Maintenant, suivez-moi bien. Vous savez, pourquoi est-ce que Dieu interdit à deux personnes fiancées d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, alors que les deux, selon ses yeux, sont déjà mariés? Vous savez, je vais vous dire une chose, numéro un, parce que Dieu peut permettre que les fiançailles s'interrompent. Vous savez, les fiançailles, c'est aussi la période où Dieu te parle pour te révéler si oui ou non la personne avec laquelle tu t'engages est vraiment ton mari. Alors, ne viens pas me dire après, « Oh, pasteur, tu sais, je m'étais trompé. » Tu as tout le temps pendant les fiançailles pour voir si tu te trompes ou pas. Ce n'est pas après que tu viens voir pour dire, « Oh, je m'étais trompé. » Non, c'est pendant les fiançailles. Et souvent, je vais vous dire une chose, par expérience, je conseille des gens. Souvent, Dieu vous donne des signes pendant les fiançailles, mais vous refusez de les voir. Dieu vous parle, mais vous êtes tellement obnubilé, tellement passionné par le fait de mettre une bague au doigt que vous n'écoutez même pas les signes que Dieu vous montre. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose, frère. On y arrive tout à l'heure. Le mariage n'est pas une finalité. Ah ouais? Est-ce que vous me comprenez? Le mariage n'est pas une finalité. Non, non. Je préfère un célibataire épanoui que deux personnes mariées malheureux. Parce que je vais vous dire que si vous êtes enfant de Dieu et que Dieu ne vous a pas promis l'enfer, si vous ratez votre mariage, vous allez quand même connaître l'enfer avant d'aller au ciel. Oh, vous avez déjà vu quelqu'un qui est là et sa femme sort, il est là, il prie, il dit, Seigneur, qu'un camion l'écrase, qu'elle meure. Vous savez qu'il y a des pasteurs, qui, même des hommes de Dieu qui prient pour la mort de leur partenaire. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Je vous dis des choses vraies, des femmes qui prient. Et s'ils pouvaient mourir avant, je serais libéré. Parce que je vais vous dire, il n'y a rien de plus terrible que d'entrer en alliance avec quelqu'un et se rendre compte plus tard qu'on a commis une erreur. Ah non, c'est dommage. Je vous assure, c'est terrible. Chaque seconde de votre vie, c'est-à-dire le diable vous regarde en face et rit au-devant de vous. Okay. Donc, Dieu nous donne le temps. Aussi parce que l'hymen de la femme, une femme même avant qui a eu, des rapports sexuels avant de se convertir, une fois qu'elle arrive au salut, il y a une restauration de Dieu et puis l'acte sexuel qu'elle pose dans le mariage devra être le signe de Dieu pour pouvoir sceller l'alliance qui existe entre son mari et elle. Et ensuite, Dieu veut protéger la femme. Parce que, suivez-moi bien, j'ai dit j'enseigne ce matin. Je vais vous dire une chose vraie, sœur. Un homme a plus d'élan et d'engouement à votre égard quand il n'a pas encore découvert votre nudité. Est-ce que vous me comprenez? Et vous voyez, même aujourd'hui, vous savez, le monde chante tapé d'eau. Ok? Est-ce que vous comprenez? Non, écoutez-moi bien, vous comprenez? Vous savez, écoutez-moi bien. J'ai dit j'enseigne, n'est-ce pas? Vous savez, All right. Vous pouvez même être le choix d'un homme. Et si vous vous livrez à cet homme avant, et qu'il vous connaît une fois, deux fois, trois fois, le diable peut entrer dans cette relation et déstabiliser cet homme par les faiblesses de sa chair, on en parlera après. Et cet homme perd l'élan qu'il avait au départ, et il n'a plus d'engouement pour vous amener devant le maire. Plus vous vous retenez, plus vous vous gardez, mieux vous arrivez à conquérir le cœur de cet homme. Parce que, je vais vous dire que chaque homme a un énorme respect pour une femme qui dit non. Pour une femme qui dit, je crains Dieu. Pour une femme qui dit, à cause de lui, je n'y vais pas. Je préfère attendre que ça se fasse comme Dieu le veut. Écoutez-moi bien. Cet homme-là dira à ses amis, vous savez, je peux jouer avec X, je peux jouer avec Y, mais celle-là, non. Parce que je sais que elle, c'est une femme qu'on met à la maison. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la crainte de Dieu est un élément fondamental. Est-ce que vous me comprenez? Il est important que dans la relation que vous avez, que la crainte de Dieu jaillisse. Mais vous savez, si je suis avec quelqu'un, ou même un ami, ou n'importe qui ne craint pas Dieu, écoutez-moi bien, je fais attention à cette personne. Il faut savoir craindre Dieu. Vous savez, c'est important de le craindre. Celui qui ne craint pas Dieu, il est dangereux. Il faut savoir craindre Dieu. Amen. Et même pour une sœur, et vous savez, non, vous savez, je vais l'épouser à l'église, il n'y a pas, les gardes ne sont pas trop mignons, pas, ils ne s'habillent pas bien, ils ne sont pas assez riches, ils n'ont pas le standard que je veux. Ok, gloire à Dieu. Peut-être oui, mais suis-moi bien. Un homme que tu épouses, qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas de révérence et de soumission à l'autorité de Dieu, va devenir pour toi un véritable danger. Donc, la crainte de Dieu devrait être le repère sur lequel je m'appuie pour faire quoi que ce soit. D'abord, la Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et non l'apparence de richesse. L'apparence de richesse n'est pas un signe de sagesse. Non, mais c'est d'abord la crainte de l'Éternel. Donc, il faut tester les personnes avec lesquelles on se trouve sur la base de la crainte de l'Éternel. Si cette personne ne craint pas Dieu, il faut te retracter. La crainte de Dieu est importante. Il faut craindre Dieu. Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi bien. Pourquoi est-ce que des personnes qui ont vécu ensemble, qui se connaissent dans la société, qui se sont fréquentées, qui sont excitées, qui ont fait des mariages pompeux, qui se sont crié oui devant le maire, qui se sont jurés extrême fidélité jusqu'à la mort, qui ont dit non, dans tous les cas, cette histoire, j'y reste jusqu'à ce que je périsse. Un mois après, un an après, 2 ans après, 10 ans après, se déchire de façon lamentable au tribunal. Quel peut bien être le problème? Pourquoi est-ce que deux personnes qui étaient tant attachées, qui se sont aimées à la folie, peuvent arriver au divorce, à cette calamité, à cette autre position? Il y a quelque chose que certainement nous ne connaissons pas et qui favorise la déstabilisation de la relation ou de l'alliance du mariage. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Vous avez déjà vu deux personnes aller au divorce? Et je vais vous dire, c'est terrible, c'est triste. Parce qu'en ce moment-là, ce que chacun fait, il essaye de chercher le côté le plus négatif de la personne. Et quand on dit, oh, mais qu'est-ce que ça doit être ton mari? Oh, c'est un chien, c'est un démon, c'est un sorcier, c'est un vampire. Mais comment est-ce que tu peux dire des choses pareilles de quelqu'un avec lequel tu t'es retrouvé nu dans une chambre? Pour moi, c'est vraiment inimaginable. Je vous dis la vérité. C'est impensable. Il y a ce que j'appelle la loyauté que nous devons avoir. Même quand tu as eu un simple ami et que les choses ne vont pas, il y a des choses qui ne se disent pas. Ayant une certaine dignité, vous comprenez? Si vous en avez vraiment marre et que vous voulez partir, fermez votre bouche, essayez de la courir et puis partez en silence. N'essayez pas de justifier votre désobéissance en calomniant l'autre. Non, généralement, celui qui parle mal de celui avec qui a été est la mauvaise personne. Parce que Joseph était un homme de bien. Quand il a vu le vent de Marie, il a dit, je t'aime beaucoup, c'est vrai. Tu m'as énormément déçu. Comment est-ce que tu allais prendre une grossesse de quelqu'un d'autre? Selon la loi, je dois te faire lapider, mais moi je n'ouvrirai pas ma bouche contre toi. Je voudrais rompre en silence. J'ai la preuve de ton infidélité. Le ventre est sorti. Vous savez, et Marie ne pouvait rien dire d'autre. Parce que là, si Dieu n'avait pas intervenu, c'était dangereux pour elle. Est-ce que vous me comprenez? Mais Joseph a dit, je n'ouvre pas ma bouche. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu à la rencontre de Joseph. Et lui a dit, écoute, la femme que tu veux mettre à la porte, c'est ta femme. Et l'enfant qu'elle porte, c'est mon enfant. Écoutez-moi bien, je ne suis pas très sûr que si j'étais à la place de Joseph, j'allais croire que c'est Dieu qui parle. Vous comprenez? Mais vous savez, Dieu sait aussi à qui il traite certaines choses. Pourquoi est-ce que c'est ma femme que tu as choisie pour mettre Jésus dedans? Il n'y avait pas d'autre vierge? Ok? Est-ce que vous me comprenez? Souvent nous pensons que c'était une histoire facile. Vous imaginez un homme qui dort avec sa femme la nuit, qui commence à dire j'ai des douleurs, et il sait qu'il n'a pas touché cette femme. Un ange lui dit c'est Dieu. Il faut vraiment connaître Dieu pour croire. Parce que je suis certain que c'est aujourd'hui, on va dire, ah, ils t'ont initié dans quelque chose de bizarre. Ils t'ont lavé dans un canari, ils ont fait la sorcellerie. Ça ne peut pas être possible. Aujourd'hui, une chose pareille se produit, je suis certain que la femme va mourir lapidée. Hein? Parce qu'il faut vraiment croire en Dieu pour accepter une chose pareille. Mais c'est l'ange qui est venu parler. Alors, je continue en disant ceci. Pourquoi donc des gens qui ont été ensemble, qui se sont aimés, qui se sont jurés fidélité, peuvent arriver à la déchirure? Suivez-moi bien. Je voudrais parler ce matin des défis du mariage. Matthieu 19. Je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous dit pas souvent à l'église, mais qui est écrit dans la Bible. Versets 1 à 12, je vais lire. Matthieu 19. Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit beaucoup de malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il parla du divorce. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Moïse dit que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, il continue en disant, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet un adultère. Suivez ce que les disciples vont dire. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de la femme, de l'homme, à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier dans ce cas. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Jésus n'a pas dit non, il a avantageux. Il dit non, tous ne comprennent pas cette parole. C'est-à-dire quoi? Tous ne comprennent pas qu'il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Ah, ou alors, c'est ce que la Bible dit. Ah, non, est-ce qu'on est ensemble? Ah, c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit que tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, c'est-à-dire qu'on a castré. Il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. C'est-à-dire que la question du mariage peut être pour moi une porte qui m'empêche d'entrer dans le royaume des cieux. D'autres sont devenus eunuques à cause du royaume. Ils ont choisi de ne pas prendre de femme parce qu'ils ont su que ce n'était pas une histoire facile. N'est-ce pas? Ok, est-ce qu'on est d'accord? Suivez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous savez, c'est vrai, on parle, on prêche mariage, on parle mariage, on chante mariage. Mais je vais vous dire une chose. Et ça, parce que le Seigneur l'a dit et parce que je l'expérimente, le mariage n'est pas quelque chose de facile. Laissez-moi vous dire encore, le mariage n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de difficile. Le mariage ressemble au royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas facile. Le royaume des cieux est difficile. Mais c'est possible tout de même. Ok? Ça veut dire que c'est au prix d'un effort qu'on jouit du royaume. C'est au prix d'un effort qu'on jouit, n'est-ce pas, du mariage. Quand il n'y a pas investissement, quand il n'y a pas sacrifice, quand il n'y a pas effort, le mariage, vous ne pouvez pas en jouir. Si tu veux aborder le mariage, il faut être prêt à payer le prix du sacrifice. Il y a un prix à payer pour, n'est-ce pas, entrer dans le mariage. Alors, maintenant, je voudrais vous parler de ces défis auxquels on peut être confronté quand on est marié. Okay, les défis auxquels même pas on peut être, auxquels chacun est confronté dans le mariage. Non, avancez le tableau simplement. Ok, très bien. Ok, d'accord. Maintenant, suivez-moi bien. La Bible est claire, posez-le là comme ça. Donc, vous devez comprendre. Vous n'avez pas l'habitude. Alors, suivez-moi bien. Ok. La Bible dit dans le livre d'Ecclésias 12, 4, verset 12, « Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde à trois fils se rompt pas facilement. » C'est-à-dire que si une personne peut terrasser une autre, mais si cette personne qu'on peut terrasser, ils deviennent deux, ça va être vraiment difficile pour cette personne d'avoir la victoire sur eux. Donc ça veut dire qu'il est bien d'être deux. Mais maintenant, la Bible va plus loin en disant « La corde à trois fils se rompt pas facilement. » Généralement, quand nous avons vu ça, nous avons parlé non de la présence de Dieu au milieu de l'homme et de la femme. Mais on va au-delà. On va au-delà. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. La corde à trois fils ne rompt pas facilement. Il y a des mariages qui sont bâtis sur un fil. Il y en a qui sont bâtis sur deux. Il y en a qui sont bâtis sur trois. Mais si ton mariage est bâti sur un fil, ça peut se couper très facilement. Sur deux, ça peut encore se couper. Mais sur trois, ça devient difficile. Alors, voici les défis auxquels chaque personne qui se marie, n'est-ce pas, est confrontée. Numéro 1, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa... À quoi? À sa femme. Et les deux deviendront? Ils deviendront une seule chair. Alors maintenant, s'il vous plaît, ok? Vous pouvez venir tous les deux. D'accord, je vais illustrer ça rapidement. L'homme quittera son père, il quittera sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ils se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair aux yeux de Dieu. Nous sommes d'accord qu'ils deviennent un, n'est-ce pas? Maintenant, le mot chair ici vient d'un mot grec appelé bazar. Bazar qui veut dire qui? Par extension, veut dire un seul corps. Ok? Veut dire un seul être humain. Bon, maintenant, quelle est la constitution de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a dans une chair? Quand vous voyez un homme, quand vous voyez une chair, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une âme, n'est-ce pas? Et il y a quoi d'autre? Il y a un esprit. Donc, s'ils deviennent une seule chair, vous savez qu'elle aussi, elle a son âme. Lui, il a son âme. Elle a son esprit. Lui, il a son esprit. Est-ce que c'est une chair qui aura deux âmes et deux esprits? Non. Ça veut dire qu'au-delà de ce qu'il peut avoir à l'apparence une chair, il y a maintenant un mécanisme qui devra être mise en place par les deux, pour que les deux âmes fusionnent et deviennent un, pour que les deux esprits fusionnent et deviennent un. Malheureusement, la plupart des mariages que nous voyons dans la société, ils deviennent une seule chair, mais ils gardent deux âmes et ils gardent deux esprits. Alors, si ils gardent deux âmes et ils gardent deux esprits, il devient pratiquement impossible pour eux de rester ensemble. Parce qu'une chair ne peut pas garder deux âmes, et une chair ne peut pas garder deux esprits. Alors, il y a les secousses et ils se séparent. Je veux parler maintenant du mariage à trois dimensions. Les trois dimensions du mariage. Au-delà de ce que le maire célèbre à l'église, la Bible dit, ils deviendront. Ça veut dire que ce n'est pas le jour du mariage que vous devenez un. Non, non, non. Est-ce que vous me comprenez? Vous devenez une chair ce jour. Mais ce n'est pas ce jour que vous devenez un, dans la mesure où vous devez travailler maintenant, ok, pour unir vos âmes et vos esprits. D'accord? Vous savez, même les animaux unissent leur corps. Le coq et la poule unissent les corps. Ça, c'est la chose la plus facile. Aujourd'hui, on bâtit des relations simplement sur la première dimension, la dimension de corps. Vous savez, le mariage a trois dimensions. Premièrement, il y a la relation de corps à corps. L'homme a vu la femme. Il dit, waouh, quelle beauté. C'est le corps. Waouh. Elle est élégante, c'est son corps. Il dit quoi? Il dit, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Mais j'aime bien ce que l'homme a dit. L'homme, s'il avait simplement dit chair, on allait voir que cet homme-là n'a pas eu le discernement. Mais il a dit, celle qui est os de mes os. Il a d'abord parlé de l'os avant de parler de la chair. Donc, en quelque sorte, il a parlé de ce qui était intérieur avant de parler de ce qui était extérieur. Amen. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui dit ce sont les os de mes os, ça veut dire qu'il a scanné la femme jusqu'à connaître que les os qu'elle avait sont ses os. Est-ce que vous me comprenez? Ne prenez pas une femme au hasard parce que ça a l'apparence de ta chair. Il faut aller dans les os, à l'intérieur d'elle-même, dedans. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle a? Il a dit c'est les os de mes os. D'accord? Et ensuite, chair de ma chair, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Maintenant, suivez-moi bien. Vous savez, une personne, quand vous vous mariez, au niveau des corps, si vous avez une relation de corps, vous n'êtes que des partenaires. D'accord? On peut être partenaire sans être en alliance. Les partenaires sexuels n'ont pas besoin d'être mariés pour ça. Est-ce que vous me... Donc, écoutez-moi bien. Suivez-moi très, très bien. Puisque même les mondains le font. Est-ce que vous me comprenez? Sans être mariés. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment le côté charnel de l'histoire. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, suivez-moi bien. Donc, et vous voyez, au-delà de ce que le mariage représente, le corps a cinq sens. Il y a les yeux, il y a la bouche, l'oreille, la peau et le nez. Et l'œil représente le sens de la vue. La bouche, celui du goût. Les oreilles, celui de l'ouïe. La peau, celui du toucher. Et le nez, celui de l'odorat. Vous ne pouvez pas perdurer dans une relation à deux. Si les cinq parties de votre corps ne sont pas constamment mises en éveil, l'un pour l'autre. Pourquoi est-ce que vous constatez qu'une femme et un homme qui sont mariés se lèvent le matin à 8 heures, s'en vont au travail à 8 heures, reviennent le soir à 22 heures, ils le font régulièrement. Selon une étude relâchée hier par TF1, ils le font régulièrement, ils le font régulièrement sur 7 mois, la notion d'infidélité s'infiltre dans la famille. Pourquoi? Suivez-moi bien. Parce que le matin, quand la femme sort, toute habillée et toute belle, elle va au bureau. Qui est celui qui la voit? Oh, répondez après moi. Qui est celui qui la voit? Qui est celui qui hume son odeur? C'est qui? Ce sont ses collègues, n'est-ce pas? Avec qui elle parle le plus? Avec qui elle parle? Ok. Maintenant, au niveau de l'odorat, elle sent l'odeur de qui? Des gens qui sont tout autour, n'est-ce pas? Ok? Donc vous voyez, et ses oreilles et tout, ses cinq sens sont engagés vers d'autres personnes. Et quand elle revient le soir, et que tes sens se mettent en éveil, quand tu la vois fatiguée et fanée, quand tu sens son odeur, elle sent la crasse, parce que quel que soit le parfum qu'elle a mis, le soir déjà, il y a quelque chose, il n'y a plus cette fraîcheur. Et qu'est-ce qui se passe? Qui elle entend le plus? Même quand elle t'entend, c'est des paroles, bon, ma journée a été difficile, s'il te plaît, laisse-moi... Ok? D'accord? Et vous comprenez ce que je veux dire? Donc, elle ne passe plus de temps, il n'y a plus de relation de corps, simplement. Même dans le physique, il y a déjà une barrière qui se tend. C'est pour ça qu'il est important, écoutez-moi bien, il est important de maintenir sur 24 heures une relation des cinq sens. Il faut trouver le temps dans la journée. Même si c'est à la pause, que vous vous appelez pour vous voir, ne serait-ce qu'un moment, pour vous apprécier mutuellement, pour dire à chacun comment est-ce qu'il est habillé. Écoutez, c'est important. Parce que, suivez-moi bien, si quelqu'un d'autre le fait à ta place, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, n'oubliez pas qu'à un certain moment, la voiture, quand elle n'a pas de carburant, ne choisit pas la station, elle va le prendre. Ok? Très bien. Ok? Est-ce que vous me comprenez? Et c'est la raison pour laquelle, généralement, vous vous rendez compte quand vous demandez à une femme, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que c'est arrivé? Elle te dira, j'avais des problèmes avec mon mari, ça allait mal, j'étais faible, j'étais exposé. Pourquoi? Parce que, en fait, et quelque part, dans cette relation de cinq sens, quelque chose a manqué. Et pour les femmes vis-à-vis des hommes, suivez-moi attentivement. Vous savez, écoutez, l'homme est plus visuel que la femme. Quand une femme regarde un homme, quand une femme regarde un homme, elle cherche le cœur, elle veut le cœur, elle veut cet homme, elle veut son amour, sa protection, se sentir en sécurité. Mais quand l'homme il regarde le corps. C'est ce qui l'intéresse. Vous savez pourquoi? Parce que le premier homme a passé son temps à regarder les corps pour chercher ce qui ressemblait à son corps. Donc, l'homme a un regard, a une attitude de prédateur. Il cherche. Et donc, même quand il a trouvé, l'œil a continué à essayer de continuer à chercher. Parce que c'est une déformation de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Donc, le premier homme a cherché. Et la première femme, la chose qu'elle a entendue en premier, elle n'a pas cherché. Elle a vu son homme directement. Elle n'a même pas eu le temps d'être ailleurs. Et je vais vous dire que la femme a tendance à être plus fidèle que l'homme. Parce qu'une femme, c'est le cœur qu'elle recherche. Même si l'homme est à 1000 km, aussi longtemps que son cœur est engagé, ses sens ne se déclenchent pas. C'est différent de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? La femme est engagée par son cœur. Est-ce que vous me comprenez? C'est important. Ok? Donc, Et vous voyez que la première femme, c'est qui est arrivé, c'est quoi? Le premier homme a parlé. Il dit, oh, tu es os de mes os, chair de ma chair. On l'appelle Rapha, la femme. Waouh, il a touché le point sensible. La femme a comme. Et ensuite, il a pris la main de la femme et il a baladé la femme dans le jardin. Il a dit à la femme, voilà le manguier, voilà l'avocatier, voilà le poulet, voici le Jourdain, voici tant. Et vous allez vous rendre compte que les femmes n'aiment pas simplement rester au même endroit. Elles aiment se balader, elles aiment faire le shopping, elles aiment regarder les choses nouvelles, elles aiment voir de nouveaux paysages, elles aiment prendre l'avion. Pourquoi? Parce que leur ancêtre, leur aïeul, a été baladé par notre aïeul. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Donc, est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est tout à fait normal, c'est ce qui s'est passé. Et souvent dans le mariage, on se dit, ok, je l'ai déjà pour moi, c'est terminé, c'est ma femme, reste à la maison. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Ne considérez jamais votre partenaire comme acquis, écrivez-le. Ne considérez jamais votre partenaire comme acquis. Vous devrez être dans une conquête permanente. Ah, ça, je vous dis en vérité, il ne faut jamais le considérer comme acquis. Il faut permanemment conquérir son partenaire. Si c'est difficile, mettez des trucs sur le papier. Voici les 10 choses que je ferai par mois. J'enverrai les fleurs une fois par mois. J'appellerai 3 fois par Dieu pour dire que je l'apprécie. C'est important. Il faut apprendre à mettre des garde-fous autour de ce qui est précieux pour soi. Après, il ne faut pas dire... Je ne sais pas ce qui est arrivé, c'est toi qui as été responsable. Homme comme femme, nous avons une responsabilité. Alors je parle aux femmes. Vous savez, souvent on dit, ok, ce n'est pas parce que toi c'est le cœur qui t'intéresse le plus que tu vas penser que l'homme fonctionne comme toi. Non, tu es marié à un homme, il t'a épousé, tu faisais 55 kilos. 3 mois après, tu n'as pas le droit d'avoir 85 kilos, ce n'est pas normal. Non, ok, ce n'est pas normal du tout. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi bien, ne vous trompez pas. Si un homme vous dit, pour moi ça ne me dérange pas, c'est toujours la même chose, quelque part je vous dis, il y a quelque chose, parce qu'il vous a vu dans X état, et c'est dans cet état qu'il vous a demandé pour femme. Généralement, son point de repère ressemble à l'état que tu avais quand il te rencontre. Ok? Est-ce que tu me comprends? Ah non, c'est pas important. Et vous savez, souvent je vais rendre visite aux gens dans les maisons. Et on est à la maison, tu vois, le monsieur descend de sa chambre, il a un ventre qui est là, et puis la chemise est déchirée ici, et là c'est sale. Il est à la maison, c'est pas grave. Sa femme est là, c'est... Non, c'est ma femme, c'est pas grave. Et les babouches qu'il porte, vous voyez, si vous laissez cette image permanemment, pourquoi est-ce que vous voulez que votre femme vous considère comme un héros? Même quand tu dors la nuit avant de dormir et passe tes vêtements, il faut garder une certaine propreté, une certaine attirance. C'est important, est-ce que vous me comprenez? Très important. Après, ne venez pas me dire, pasteur, prie pour moi. Il y a des choses que la prière n'arrange pas. Tu as besoin d'ajuster les choses dans le naturel. Est-ce que ça va? Ok. Ah, il faut ajuster dans le naturel. Il y a des choses qu'il faut ajuster. Il faut ajuster. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Ne permets pas à un de ces sens de perdre ton mariage. À un moment, tu poses ta main sur ta bouche, tu disciplines ce que tu manges. Si ça te demande de courir, cours, parce qu'il faut conquérir ton partenaire. Écoute-moi bien, il faut quand même être sûr, quand on sort le matin, qu'on ait une fierté pour la personne avec laquelle on est entré en alliance. Mais pas un sujet d'anxiété. Vous devez constamment avoir la préoccupation de rendre heureux. Parce que, je vais vous dire une chose vraie, on ne se marie jamais parce qu'on va être heureux. On se marie parce qu'on veut rendre heureux. Et que tous les jours de ta vie, tu réfléchisses sur qu'est-ce que je dois faire pour rendre heureux la personne qui est avec moi. Ce n'est pas pour être heureuse. Ou pour être heureux, non, mais pour rendre heureux. Maintenant, au-delà de la relation de corps, vous allez vous rendre compte, après que les corps se soient mis ensemble, généralement, il y a comme un détachement. Ce qui maintient la relation plus tard, c'est l'âme. Parce qu'au-delà des corps, il y a l'âme. La personne que tu vois n'est pas tout ce que tu vois. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a la personnalité de la personne. Il y a l'intelligence de la personne. Il y a les sentiments de la personne. Il y a la volonté de la personne. Il faut connaître ça. Tu ne peux pas seulement avoir une relation comme ça, comme un animal. Non. Prends le temps d'étudier ton partenaire. Connais exactement sa personnalité. Prends le temps de... Vous savez, j'ai appris une chose. Nous avons hommes et femmes des personnalités extrêmement différentes. La preuve, et puis même, même si là vous avez été élevé par le même père, les personnalités sont différentes. Apprenez à puiser de votre partenaire le meilleur de sa personnalité. Et apprenez à ne pas mettre l'accent sur les choses négatives. Parce qu'au fil du temps, si vous êtes toujours en train de critiquer la personnalité de quelqu'un, en certains moments, vous la frustrez. Et la personne se sent diminuée. Combien de fois des femmes ont perdu courage parce que le mari a dit « Oh, tu veux rien, tu fais ci, tu veux pas. » Non, non, ce n'est pas vrai. Vous êtes simplement différents. Il y a des manières, vous êtes différents. C'est tout. Donc, il faut apprendre, n'est-ce pas, à célébrer vos différences. Les différences existent, mais il faut les apprécier. Ce qui est sûr, c'est que c'est des différences qui sont des complémentarités. Chacun de nous a quelque chose qui est bénéfique pour l'autre. Il faut apprendre à en profiter. De deux, vous êtes intelligemment différents. Mais chacun de nous est intelligent. C'est trop maladroit de dire à quelqu'un « tu manques d'intelligence ». Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que les paroles détruisent l'âme. Il faut faire attention à ce qu'on dit, qu'on se dit ensemble. Si tu n'as rien de bon à dire à ton partenaire, ferme ta bouche. Parce que, écoute-moi bien, ce que tu dis aujourd'hui va influencer votre relation de demain. Et souvent, c'est pour les hommes que je dis ça, plus fortement. Parce que souvent, on pense qu'on a fini de parler. Même 7 ans plus tard, une femme te rappellera une parole qu'elle a entendue de la bouche de son mari. Oh, souvent, je me demande pourquoi est-ce que les femmes sont comme elles sont. C'est parce que Dieu a voulu qu'elles soient comme ça. Vous savez, il y a un truc. Tu peux faire tout ce qu'il y a de beau, de clean, de propre. La femme, souvent on a tendance à oublier. Mais dès que c'est quelque chose de mauvais, elle prend son carnet pour noter, voici ce qui m'a fait de mauvais. Je dis, mais oh my, c'est pas vrai. Écoutez, vous savez, c'est la réaction de la femme. Donc, vous devez, au-delà du fait d'être partenaire, retrouver l'amitié. Et n'oubliez pas que même Dieu, il a eu les disciples pour partenaires. Il a travaillé avec eux. Mais il n'est pas allé à la croix tant qu'ils n'étaient pas devenus des amis. Il a dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que je vous ai donné de savoir ce que j'ai appris de mon père. Ce qui va bâtir l'amitié, c'est la communication. C'est anormal que vous soyez ensemble. Et que, par exemple, la femme ne connaisse pas ton salaire. Non, non, je touche des points parce que la Bible dit, ils étaient tous de nus et n'en avaient point honte. Si tu ne vas être à même d'être nu et de n'avoir pas honte de ta nudité. Et en plus, j'ai vu des gens qui mentent avant le mariage. Ils impressionnent la femme. Ah, je touche tel montant. Tu n'as pas besoin de mentir. Sois toi-même, dis ce que tu es. Parce que ce que tu as donné comme mensonge va te rattraper dans le mariage. Hein? Si ton niveau, c'est le restaurant où on paye le plat à 1000 francs, n'essaye pas de l'amener manger là où on paye le plat à 50 000. Et je vais vous dire une chose, aucune femme n'aime un homme stupide. Généralement, elle va manger avec toi, c'est 50 000, mais quand elle tourne le dos, elle dit, tu es stupide. Parce que la propre femme qui accepte de manger ton plat à 50 000 est en train de dire à son frère, ne commets pas le même acte. Dis à l'homme qui est à côté de toi, ça, c'est pour toi qu'il est en train de dire ça. Ok. All right. Ok. Donc, est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Donc, suivez-moi, ok? Vous devez être des amis. Vous devez bâtir à l'amitié. Parce qu'au-delà de tout ce qui est physique et sexuel, la relation de mariage va dans l'amitié. Je ne comprends. Vous devez être amis. Ta femme n'est pas ton esclave. Non, c'est ton ami. On n'épouse pas une femme parce qu'on veut le titre de non, c'est ton ami. Et ton ami, ça se respecte et ça s'honore. Il y a la loyauté dans le comportement. Écoute-moi bien, si c'est ton ami ou alors si ton partenaire est ton ami passe avant tes frères. Et la Bible dit, tel frère vaut même plus qu'un ami. Un ami vaut même plus qu'un frère. Donc, l'amitié est au-dessus de la fraternité. Au-dessus de frères, il y a l'amitié. L'âme, vous avez une seule âme. Quand je sens quelque chose de mauvais, mon partenaire, ma femme devra ressentir la même chose. Ma femme ne peut pas se réjouir quand je suis triste. Non, Mais il y a des hommes qui ne se soucient même pas du sentiment de leur femme. Content ou pas, ce n'est pas son problème. Non, non, il faut apprendre à combler les émotions. Et j'ai constaté ceci. Si les émotions ne sont pas comblées et que l'homme arrive, « Oh oui, mais écoute, j'ai envie de toi physiquement. » La femme ne réagit pas par le corps, elle réagit par l'âme. Si son âme n'est pas déclenchée, son corps ne suit pas. Et souvent, tu peux croire que ta femme est frigide, mais elle n'est pas frigide. Elle est frigide pour toi. Ok? Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas engagée. Comment est-ce que tu peux insulter quelqu'un à 10 heures et vouloir avoir des rapports avec la personne à 13 heures? Entre nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que, en fait, celui qui se comporte comme ça est simplement en train de démontrer que lui-même, il est un animal. Honnêtement, parce qu'il n'y a que les animaux qui font des choses pareilles. Et après, venir te plaindre, « Oh, pasteur, il faut vraiment prier pour ma femme. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ne me dit pas tout. « Ah, elle n'est pas correcte. Elle tourne le dos. » Mais écoute-moi bien, dis-moi honnêtement, qu'est-ce que tu fais pour qu'elle te regarde en face? Ok. Donc, il y a le côté des âmes, l'ami, ok. On devrait être ami, c'est important. Et vous savez, deux amis ne se couchent pas la nuit sans avoir réglé leurs problèmes. Dans le mariage, les trois premières années, il y aura des complications, des incompréhensions. Mais votre capacité à régler les problèmes va faire de vous de véritables amis. Ne dormez pas sans les régler. Parlez ensemble, communiquez. Asseyez-vous au bord du lit. Souvent, ça vous prend 3 heures pour un problème qui peut se régler en une minute. Argument sur argument sur argument. Mais je vais vous dire une chose que j'ai apprise et que j'applique. Je ne prends jamais autorité sur Dieu. Je ne me tiens jamais au-dessus de Dieu. Je laisse la parole avoir le dernier mot. Je vous dis en vérité. Pourquoi? Si j'ai tort, je m'excuse. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas plus grande chose à faire que de m'excuser si j'ai tort. Et souvent, les gens pensent que quand tu t'excuses, tu perds ton autorité. C'est faux. Quand tu t'excuses, tu gagnes en autorité. Tu n'es pas, ça ne fait pas de toi un petit homme quand tu t'excuses. Même devant tes enfants, tu as fauté, excuse-toi. C'est aussi simple que tout. Et dialoguer, parler. Essaye de te faire comprendre. Essaye de comprendre les personnes en face. Et encore, encore, tu ne vis pas dans ta maison pour être heureux. Tu vis dans ta maison pour rendre les autres heureux. Donc, il y a des choses que tu aimes, que tu acceptes de ne plus faire parce que la personne en face n'aime pas. Ok? D'accord, donc, c'est le sacrifice qui intervient pour que l'amitié soit durable. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux voir la main de ceux qui veulent se marier dans la salle? Qui disent que je suis prêt à y aller, ok? D'accord. All right? Ok, vous êtes amis, est-ce que vous me comprenez? Donc, vous êtes complices, vous parlez de tout ensemble, vous dégagez la force de l'unité. Maintenant, suivez-moi bien, suivez-moi très bien, ok? Le temps nous manquera d'aller plus loin que ça, suivez-moi bien. Vous savez, la relation esprit est celle que j'ai trouvée la plus complexe. Et dans beaucoup de mariages, les gens n'atteignent pas à avoir cette relation d'allié. Parce qu'en fait, l'alliance n'est pas dans le corps. Ce n'est même pas simplement au niveau de l'âme. Mais ça intervient au niveau de notre esprit. Nous sommes des alliés. Alliés pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on s'est marié? Parce que vous devez vous retrouver le but de votre mariage. Je me marie pourquoi? Est-ce que parce que je me sens seul, je me marie? Non, pas simplement. Je me marie parce que je suis allié à quelqu'un. Je veux m'allier à quelqu'un pour accomplir la vision de Dieu en ce qui concerne ma destinée. Pourquoi est-ce que je suis né? Quel est le but pour lequel j'ai été créé? Et c'est pour ça que je me marie, pour accomplir le but pour lequel j'ai été créé. Et je vais vous dire quelque chose. Généralement, vous savez, je vous donne un secret. Tu veux te marier, tu es femme, la chose la plus facile à faire, c'est de ne pas avoir de préoccupation en ce qui concerne le mariage. Mais avoir de préoccupations en ce qui concerne aider quelqu'un. Si tel est le désir de ton cœur, Dieu va créer un miracle. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, allez demander à Rachel. Quand elle était au puits, elle n'a pas pensé au mariage, elle a pensé à donner de l'eau simplement. Quand ta préoccupation c'est être une bénédiction, tu seras béni. Mais beaucoup de personnes veulent être bénies sans penser à bénir. Beaucoup de personnes veulent être heureux et ne pensent pas à rendre heureux. Et je vais encore dire quelque chose, je n'avais pas prévu de le dire, merci Saint-Esprit. Tu vas toujours attirer exactement ce que tu es. Tu vas toujours attirer exactement ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce que tu attires. Si tu es une femme médiocre, tu vas attirer un mari médiocre. Si tu es, c'est-à-dire, en fait, ce que tu es, c'est ce que tu attires. Ce que tu es, c'est ce que tu attires. Tu veux le bonheur, prépare-toi à être une femme de bonheur. Écoute-moi bien. Même si quelqu'un est mauvais et qu'il vient vers toi, il ne va pas arriver au mariage. Dieu va interrompre parce que tu ne mérites pas cette personne. Ta qualité va créer l'attraction de ce que tu es. Est-ce que tu vois? Et je vais te dire, ce que tu es, ce n'est pas la voiture que tu conduis ou la maison que tu as. C'est le cœur que tu possèdes. Marie était inconnue en Israël. Marie n'avait pas de réponse. On ne la connaissait pas. Mais la Bible dit, elle était fiancée à un homme de la maison de David. Le cœur de Marie était un bon cœur. Elle a créé l'attraction de Joseph. Elle a eu dans son ventre la plus grande promesse qu'aucune femme en Israël n'ait jamais eue. Elle a porté dans son sein Jésus-Christ de Nazareth à cause de la qualité de ce qu'elle était. Est-ce que vous me comprenez? Et même quand son mari a décidé de la répudier, elle n'a pas crié. Son fiancé n'est pas allé. Non, elle n'a pas fait de scandale. Elle a dit, ok, aucun problème. Et Dieu est venu intervenir à sa place. Écoutez-moi bien. Nous devons faire très attention sur la qualité de ce que nous sommes. Même dans mes relations, j'ai appris, si les gens me demandent, « Oh, mais comment tu formes de Dieu ? Il y a la traitue. Tu as toujours des gens autour qui t'aiment et tout. » Mais pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai à l'intérieur. Je vous dis la vérité, vous créez l'attraction de ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de correct, vous créez l'attraction des gens corrects tout autour. C'est ce qui se passe. Ok ? Parce que dedans, il y a quelque chose de positif. Donc, vous devez penser à être des alliés. Beaucoup de personnes dans le mariage ne dégagent pas la force de l'accord. Deux valent mieux qu'un. Si un tombe, l'autre le relève. L'autre n'accuse pas celui qui tombe, mais il le relève. Vous êtes alliés pour marcher ensemble. Pour s'entraider. Oh non, mon salaire, c'est pour mon mari, c'est pour ma famille. Mon mari doit payer la maison, il doit s'occuper de moi. Si ton mari n'a pas d'argent et que tu as l'argent, ce n'est pas ton argent, c'est votre argent. Mets-le à la disposition de ton mari. Oh, je ne sais pas s'il existe encore des femmes comme ça, aussi nombreuses que Sarah était, appelait son mari « mon Seigneur ». Elle pouvait prendre son salaire à la fin du mois et venir dire « mon Seigneur, voici le salaire que j'ai gagné. Qu'est-ce qu'on en fait ?» Elle vient poser au pied. Vous savez, une femme viendra déposer son salaire uniquement quand elle sait que tu te conduis justement et droitement. Mais le salaire qu'elle dépose à tes pieds, ce n'est pas pour que tu distribues à toute ta famille, à toi. Ou alors que tu fasses des insensées, des choses insensées avec. C'est pour qu'elle se sente en sécurité dans la conduite de la maison. Et si tu es un homme et que tu as un problème avec la question d'argent, accepte que ta femme prenne le leadership des finances. Ça ne fait pas de toi un petit homme, mais un grand homme. Je vous dis la vérité, c'est ce que je fais. Si tu as un problème avec le problème des finances et que tu es dépensier, ce que tu fais, tu laisses quelqu'un d'autre qui ne l'est pas gérer les finances. Pourquoi vous êtes deux? Qu'est-ce que ça fait que ce soit la femme qui décide où les finances s'en vont? Il n'y a aucun problème. Mais nous sommes en accord. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous me comprenez? Même au niveau de l'église, je dis, hey, prenez les finances. Je n'ai pas besoin de ça. Et je veux bien que les gens voient quelles sont les décisions qu'on prend en ce qui concerne les finances. C'est la transparence. Et personne ne se plaint. Pourquoi? Parce qu'il faut bien savoir bénéficier des conseils des autres. Tu prends ton argent avant d'arriver à la maison, tu envoies l'argent au village, tu envoies l'argent à tel oncle. Maintenant tu viens, tu dis voici ce qui reste. Voici ce qui reste, on est mariés. Non, c'est ton péché, ce n'est pas ce qui reste. Est-ce que vous me comprenez? On se met ensemble pour décider en ce qui concerne les finances. Et je vais vous dire quelque chose de très fort. Moi, ma propre mère, mes propres frères, vous savez, je suis l'héritier de mon père aujourd'hui, le successeur, et puis je m'occupe de ma famille. Mais Dieu bénit chacun d'entre eux. Chaque fois que je vais envoyer quelque chose à mes frères, je ne le fais pas moi-même. Je n'ai pas besoin de ça. Je demande à ma femme de le faire. Vous savez pourquoi? Pour qu'ils comprennent que même au niveau de mes finances, ma femme a autorité dans notre couple. Et ça fait quoi? Ça fait que, même si, écoutez-moi bien, vous avez déjà vu des familles où quand les hommes viennent, on méprise la femme. Un membre de ta famille qui méprise ta femme devant toi te méprise. Je te dis la vérité. Et tu devras tout faire pour que celui qui méprise ta femme ne mette pas les pieds chez toi. Et que tout le monde sache que chez toi, ta femme a une valeur. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, c'est important. Elle a une valeur. et que s'il y a un problème qui se pose, on a besoin de faire référence à elle. Vous savez, c'est humain. C'est notre frère, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui est assis. Dans mon cas, ma femme a choisi de m'aider dans ce que je fais. Et puis, on travaille ensemble. Écoutez, ma famille peut dire non, c'est lui qui a le plus d'argent. Non, non. Quand il y a un problème, je dis ok, allez voir l'intendant de la famille, parlez avec elle. Au départ, ça fait mal. Mais ils ont besoin de ça, oui ou non? Oui. Donc, ils vont faire comme je demande. Et vous savez quoi? Celui qui te donne, tu négocies pour être en bon terme avec lui. Ça veut dire que maintenant, ils font tout pour envoyer des cadeaux et pour être en bon terme. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? All right. Parce que si tu n'as pas fait ça, ta femme ne sera pas respectée et ton mariage va connaître des problèmes. Ils deviendront une seule. C'est un processus. Il faut de la sagesse pour devenir un. Maintenant, suivez-moi bien. On ne met pas les finances ensemble si on n'est pas d'accord sur la vision qu'on a au niveau de... Quelle est la vision qu'on a? Écoutez-moi bien, femme. Peut-être vous allez dire, oh, ce gars, il n'est pas générationnel. Ce n'est pas grave. Je suis biblique. Suivez-moi bien. Je ne crois pas au fait qu'une femme dans une maison ait une vision à part. Vous avez entendu prêcher, les politiciennes vous le disent. Oh, on réclame, on est l'ère de la femme, l'émancipation. Écoutez-moi bien, c'est 1 + 1 qui font 1. Donc, une femme qui a une vision pour elle seule a déjà créé la tombe de son mariage. Aucun homme ne l'acceptera parce que Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi. La vision de chaque femme se trouve dans la vision de son homme. Pas à côté, mais dedans. Aucune femme ne va me dire, oh, j'ai une vision. Écoutez-moi bien. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent, oh, Madame Clinton veut devenir chef d'État. Et non, mais elle a raison. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus une seule chair. Clinton a terminé le mandat en tant que chef d'État. Sa femme était avec lui. Même quand on a failli lui arracher le pouvoir, elle a dit, il m'a trompé, c'est pas grave, je l'aime et je lui pardonne. Et je demande à toute l'Amérique de pardonner à mon mari. Les gens ont dit, c'est pas croyable. Et ensuite, maintenant, Clinton ne pouvait plus se représenter, mais il pouvait se représenter. Il a choisi maintenant de contourner la loi des hommes en se représentant par sa femme. Ça ne veut pas dire que sa femme a une vision contraire, non, ou bien qu'elle combat, non. Mais c'est la même chose, parce que quand elle va s'asseoir à la Maison Blanche, le président sera assis à la Maison Blanche. Est-ce que vous me comprenez? C'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais dire ceci. Vous savez, il y a des femmes, quand le mari a une promotion, elle grince des dents, elle n'aime pas voir... Ou alors l'homme, quand il voit sa femme prospérer, non, non. Si ta femme prospère, c'est toi qui prospères. Ça, c'est clair. Donc, mais pourvu que la vision reste dans la vision principale, et l'homme est le leader, et le chef de la famille, c'est ce que la Bible dit. D'accord? Que quelle que soit la vision que nous avons, nous devons nous arranger à avoir une seule vision. Une maison où il y a deux visions, ça devient la division. Et même, je vais plus loin, deux personnes qui dorment dans la même chambre, qui prient dans deux églises différentes, sont en train de semer les germes qui vont les conduire à deux visions différentes et à la division dans la famille. Est-ce que vous me comprenez? J'encourage les femmes à tout faire pour être avec leur mari. C'est important. Maintenant, qu'en est-il si ton mari, comme tu veux me poser la question, ne prie pas là où il se trouve la vie. Il y a l'intelligence et la sagesse pour pouvoir faire basculer les choses. Si tu as besoin de ça, je vais te donner des conseils après. D'accord? Donc, suis-moi bien. Il est important. Il est important d'avoir la même vision. C'est important. Parce que même si un jour, vous avez des problèmes au niveau de vos sens et que les choses semblent ne pas bien aller, l'amitié va soutenir cette corde-là qui a rompu. Et les deux fils vont tenir. Et si même ça lâchait quelque part au niveau de l'alliance ici, cette amitié-là, qui reste le fil solide, va vous ramener à la même vision. Parce que si vous êtes amis, vous avez tendance à faire les mêmes choses, de faire des choses ensemble. Donc, quand la corde a 3 fils, cette corde rompt très difficilement. Souvent, le divorce a commencé avant que le divorce ne soit prononcé. Quand ici déjà, il y a divorce, et que là, il y a divorce, vous devenez simplement des simples partenaires sexuels. Et ça, on peut trouver n'importe où, même au bord de la rue. Je vous dis la vérité, c'est choquant, mais c'est vrai.
Au-delà de ce qu'il y a de physique, il y a des choses les plus importantes, qui sont l'amitié et l'alliance que nous trouvons dans le mariage. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, enseigne, pose des fondements pour toi, pour ta vie, pour ton épanouissement. Vous savez, ces choses sont apprises au travers des souffrances, des endurances, des batailles, des défis, des études. Je ne sais pas combien de livres sur le mariage j'ai lu, combien de fois j'ai étudié, mais jamais de la vie, je vais quand même vous dire, jamais de la vie, je n'avais vu la Bible comme je l'ai vue de cette manière à partir d'Ecclésiaste 4. C'est quand j'ai commencé à étudier que Dieu m'a montré cette chose. Et c'est ce matin, quand je suis arrivé à l'église, que Dieu m'a dit, partenaire, amitié, alliance. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Amen. Et je crois, amen, je crois que c'est important, d'accord? Parce qu'au-delà de toute chose, quand vous avez 60 ans, vous avez 70 ans, il y a la complicité qui reste. D'accord? Est-ce que ça va? Nous sommes chrétiens. Seigneur, merci pour ta fidélité. Je veux te rendre grâce. Que ta puissance véritable agisse dans chaque cœur et que le miracle se produise par ta force exceptionnelle, car tu es le Dieu vivant. Père, fais-le! Car tu as dit, tu ne mets pas à la porte celui qui vient à toi. Que tu le fasses maintenant dans chaque vie.